Santé.
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 C'est bon pour la santé.
Faire du sport.
C'est bon pour la santé.
Les carottes.
C'est bon pour la santé.
Boire. Rire.
Bien dormir.
Bouger. Faire de l'exercice.
C'est bon pour la santé.
Puis on vieillit bien à part de ça.
Manger des fruits.
Mangiamo le spaghetti.
Une ou deux gorgées d'eau toutes les heures.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon début d'après-midi. Oui, je vais ouvrir mon émission sans m'enfarger. Marianne Paquette qui est là pour les 30 prochaines minutes. J'espère que vous allez bien parce qu'on continue aujourd'hui à parler de santé avec cette nouvelle émission « C'est bon pour la santé » qui débutait tout juste hier. Et comme je le disais, un magazine qui sera là pour vous proposer chaque jour du lundi au vendredi des saines habitudes de vie, des trucs, des astuces. En fait, je suis sûre que vous avez déjà des saines habitudes de vie, mais pour vous en proposer peut-être de meilleures et pour vous encourager, bien sûr, à les conserver. Donc, outils, ressources seront là dans les prochaines semaines avec toujours des spécialistes et des gens hyper intéressants autour de ces micros. Donc, en deuxième partie d'émission aujourd'hui, Marielle Potvin, orthopédagogue, elle qui est là pour nous parler des enfants gauchers. Hein. Bon, on sait, là, c'est le retour à l'école là, qui s'est fait il y a de ça quelques jours. Et les enfants gauchers qui sont parfois confrontés à de petites difficultés, notamment en début de parcours, pour s'adapter au milieu scolaire. Les gauchers, ça touche quand même, et ça, c'est intéressant de l'apprendre, 13 % de la population mondiale, et dont des gens extrêmement connus, dont Barack Obama, dont je ne savais pas. Donc, ça sera intéressant de voir ce qu'elle propose pour ces enfants-là, pour développer leurs habiletés. Aussi, en première partie d'émission, le multitâche. Qu'est-ce qu'est le multitâche? On pourra l'aborder, bien sûr, qui peut ralentir le vieillissement du cerveau. Ça devrait intéresser la plupart d'entre nous. J'en parlerai avec Bianca Bière, elle qui est doctorante en neuropsychologie à l'Université de Montréal et également l'auteur principal avec son équipe de chercheurs de l'Université de Montréal de cette recherche. On en discute avec elle dans quelques instants. Bonjour Bianca.
Bonjour.
Merci d'être là.
Ça fait plaisir.
Alors, il y a de ça. Ça fait combien de temps que cette étude-là a été lancée?
Ça fait déjà plusieurs années. Je vous dirais un bon 5-6 ans qu'on travaille sur cette étude-là. C'est un long processus de recruter des participants qui veulent bien faire nos études à l'Institut de gériatrie. Et aussi, c'est un entraînement là, qui se déroule sur plusieurs semaines, donc c'est un gros
Ça s'est déroulé sur 2 ans en tout l'étude, 48 exact. Personnes.
Exactement.
68 ans et plus. Pourquoi oui. ce groupe d'âge-là?
En fait, nous, on s'intéresse à ce groupe d'âge-là. C'est des personnes qui sont donc évidemment vieillissantes. On remarque que c'est des gens qui ont plus de difficultés à faire certaines tâches, particulièrement ce qu'on appelle l'attention divisée ou le multitâche qu'on discutera tout à l'heure. Donc, c'est des gens qui ont plus de difficultés à effectuer ce genre de tâches-là. Donc, c'est une population intéressante pour justement faire des entraînements cognitifs avec eux. Donc, voilà.
Comment s'est déroulée l'étude?
En fait, ce qu'on a fait, c'est que, donc, au départ, on recrutait, donc, comme vous avez dit, des personnes âgées là, de 60, environ, c'était 65 ans et plus environ pour l'étude. Donc, d'abord, ce qu'on faisait, c'est qu'on leur faisait faire une imagerie par résonance magnétique, donc un scan, une IRM, et dans laquelle on leur faisait faire donc une tâche, donc différentes tâches. L'IRM, en fait, ça nous permet d'avoir une image de la structure du cerveau, mais ça nous permet aussi de pouvoir voir quelles régions qui sont recrutées quand on fait une certaine tâche. Donc, ils sont couchés sur le dos, on leur donne une manette et à l'aide d'un miroir, ils peuvent voir les différentes tâches qu'ils ont à faire. Et nous, ça nous permet de savoir vraiment quelles régions sont recrutées. Donc, ils ont fait ça d'abord. Ensuite, ils ont été séparés en 3 groupes. Donc, ils ont effectué 3 entraînements différents. Donc, chaque groupe avait un entraînement spécifique. Le premier groupe était entraîné ce qu'on appelle en attention focalisée, où on les entraînait à faire 2 tâches de façon individuelle, mais jamais ensemble.
Ensuite, on avait... OK. Comme par exemple, tricoter et faire la vaisselle.
Exactement. Donc, ils tricotaient seulement, ils faisaient la vaisselle seulement. C'est pas exactement ça, mais c'est juste pour donner l'idée.
Oui, exactement. Tout à fait. Donner un exemple pour les gens qui nous écoutent.
Exactement. Ensuite, le deuxième groupe d'entraînement, on leur demandait de faire les 2 tâches en même temps. Et okay, on leur disait...
tricoter, faire la vaisselle, c'est en même
pas
temps,
évident.
C'est très difficile.
Pas évident. Donc, ils devaient porter autant d'attention aux deux tâches. Donc, ce qu'on appelle l'attention divisée, finalement. Et notre troisième groupe, qui est notre groupe cible, eux autres, en fait, on leur demandait de faire les deux tâches en même temps. Mais par contre, on leur demandait de prioriser une tâche plus que l'autre. Donc, ils devaient contrôler leur attention. Donc, on appelle ça du contrôle attentionnel. On leur demandait de façon volontaire de varier le niveau d'attention à accorder à l'une ou l'autre des tâches. Par exemple, maintenant, vous devez prioriser celle-ci, faire quand même l'autre, mais la première est plus importante, et ensuite l'inverse. Et ça, c'est très important parce que c'est ce qu'on fait dans la vie de tous les jours très, très souvent.
Oui, on fait des choix sans même s'en rendre compte.
Oui. Par exemple, si vous conduisez une voiture, vous avez une conversation avec le passager qui est à côté de vous. Donc, vous faites les deux en même temps, mais vous devez rapidement rediriger votre attention si, par exemple, il y a un enfant qui traverse la rue ou un ballon qui arrive ou vous arrivez dans une zone de construction. Donc, c'est important d'être capable de, justement, de façon flexible, d'alterner son attention d'une tâche à l'autre. Puis c'est particulièrement ça. En fait, c'est ça qui nous intéressait. Mm-hmm. Et ensuite, après donc avoir fait ces entraînements-là, on les rescannait à nouveau pour voir, justement, pour visualiser les régions qui pouvaient être améliorées suite à ces entraînements-là.
Mm-hmm. Et Bianca, qu'est-ce qui fait que ce multitâche-là, cette sorte de multitâche-là, là, c'est-à-dire de donner plus d'importance, de faire un choix de donner plus d'importance à une action que l'autre, a à voir avec le ralentissement du cerveau, ben pas du cerveau, bien sûr, mais du vieillissement du cerveau?
En fait, nous, ce qu'on montre, puis ce qui est intéressant, c'est que cet entraînement-là a pu avoir des impacts au niveau du cerveau des personnes âgées, c'est-à-dire qu'ils avaient des activations, donc une augmentation d'activation, donc ils stimulaient davantage une région particulière, qui est une région à peu près au milieu du front, donc dans les régions frontales, donc une région qui est très importante lorsqu'on fait, par exemple, deux tâches à la fois, lorsqu'on doit justement contrôler cette attention-là. Donc, justement, suite à l'entraînement, le cerveau est capable de, donc, augmenter davantage dans cette région-là. Mm-hmm. Ce qui est particulièrement intéressant parce que souvent, on entend que le cerveau des personnes âgées n'est plus malléable, oui, ou, bon, on ne peut plus apprendre, mais là, c'est faux. Donc, on montre avec ça que c'est possible de réorganiser, que le cerveau peut se réorganiser même à un certain âge. Donc, c'est ça qui est particulièrement bien avec...
Et là, je me mets dans la peau des gens qui nous écoutent à la maison, qui se disent, moi, j'ai 42 ans, 36 ans, 22 ans, et je veux tout de suite ralentir le vieillissement de mon cerveau. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire?
C'est une excellente question. C'est une question qui nous revient beaucoup. Oui. Je vous dirais que se garder actif, ça fait partie des bonnes recettes. Donc, il y a énormément de choses qui jouent au niveau du vieillissement. On montre aussi dans d'autres études, dans notre laboratoire avec Dr. Sylvie Belleville, que nos habitudes de vie sont très, très importantes, ce qu'on mange, le stress aussi, mais de rester actif au niveau de son cerveau par, justement, l'entremise de différents entraînements aussi, peuvent nous aider à vieillir en bonne santé cognitive.
Mm-hmm. En même temps, ce que je me demandais en lisant les résultats de l'étude, c'est qu'il n'y a pas un risque à un moment donné, bon, c'est un petit peu ça que vous expliquez aussi, il y a toujours une tâche qui est plus importante que l'autre, mais qu'il y en ait une qui ne soit pas faite correctement.
En fait, c'est un peu ça, l'entraînement, ça nous permet de leur montrer à faire cette tâche-là correctement aussi.
Mm-hmm.
Mais ce qui était particulièrement intéressant dans le cadre de notre étude, c'est qu'avant de les entraîner, les participants étaient beaucoup plus attirés par une tâche.
Okay.
Donc, ils voulaient absolument le faire parce que c'était une tâche qui était plus complexe. Et quand on leur disait d'accorder plus d'attention à l'autre tâche, c'était complètement impossible pour eux, parce qu'ils étaient vraiment concentrés à faire cette tâche-là, qui mm-hmm. était beaucoup plus prenante au niveau aussi des ressources là, mentales, là, si je peux mm-hmm. dire. Et après l'entraînement, les gens du troisième groupe, donc les gens qu'on entraînait justement à alterner leur attention.
Le groupe cible.
C'est
ouais.
ça. Étaient capables de laisser tomber cette tâche-là, pas complètement, là, mais de respecter vraiment l'instruction puis d'être capables de mettre l'emphase sur l'autre mm-hmm. tâche. Donc,
Est-ce qu'il y a des choses à la maison qu'on pourrait faire parce qu'on n'a pas tous la chance de se faire suivre par des chercheurs là, pendant des années, qu'on pourrait faire simplement à la maison pour se garder alerte, que ce soit notre concentration ou d'autres facultés de notre cerveau?
En fait, plusieurs choses qui sont possibles de faire. Ce genre d'exercice-là, vous pouvez le faire avec à peu près n'importe quoi. Donc, mm-hmm. de vous dire de façon consciente, bon, mais là, je vais essayer de porter moins d'attention à cette tâche-là, plus à l'autre, et de faire l'inverse comme ça. Ça, c'est vraiment plus au niveau attentionnel. C'est certain que dans d'autres fonctions cognitives comme la mémoire, il y a plein de choses que vous pouvez faire qui ne sont pas dans le cadre de cette étude, mais énormément de choses. Juste le fait de faire des activités plus demandantes, plus complexes, comme jouer aux échecs, par exemple, ou faire des mots croisés, ce genre de choses-là, ça peut être très bien.
Cette étude-là, bon, on s'est dit que la découverte mènerait à probablement intéresser beaucoup les fabricants de logiciels parce que ça existe déjà sur le marché des logiciels pour l'entraînement cérébral. J'imagine qu'il y a un haut lin à mettre. Ce ne sont pas tous les logiciels là, qui sont adéquats pour les gens, les personnes plus âgées.
Exactement. C'est certain que nous, on n'a pas évalué ces entraînements-là que vous parlez, ces différents logiciels-là, donc je ne peux pas me prononcer, en fait, à savoir s'ils sont efficaces ou non, parce qu'on ne les a pas testés en laboratoire. C'est intéressant. En fait, c'est très important quand on veut choisir un bon logiciel aussi de savoir qu'il a été, évidemment, testé, si on veut, puis qu'il fonctionne bien. Mais nous, ce qu'on montre, puis ce qui est très important, c'est que ce qu'on met dans l'entraînement, c'est important. Donc, à savoir qu'est-ce qu'on veut entraîner, ce qu'on met dans l'entraînement est vraiment... Donc, vous voyez, on a eu trois entraînements différents qui ont eu des impacts différents sur le cerveau.
Tout à fait.
Donc, c'est pas n'importe quoi qui fonctionne, dépendamment de ce qu'on veut améliorer. Donc, c'est un peu ça.
Donc, de cibler, oui. L'autre truc aussi que je pouvais lire dans les résultats, c'est que le multitâche pourrait amener aussi une plus grande charge de stress qui pourrait être à risque pour les personnes plus âgées. Est-ce que c'est vrai, ça?
En fait, nous, on n'a pas vu ça, on ne l'a pas noté dans le cadre de notre étude. C'est certain que par rapport au stress, on sait que ça joue un rôle au niveau des performances. Donc, on sait que si on est stressé, on performe moins bien. Puis les gens qui ont du stress chronique, par exemple, sont plus vulnérables en vieillissant. C'est-à-dire qu'ils peuvent avoir un déclin, pas parfois plus rapide, mais ça peut jouer là. Là-dedans, nous, c'est pas quelque chose qu'on a observé dans
que le stress est un facteur de risque.
Voilà.
Et maintenant, dernière question, celle qui aussi vous devez vous faire demander très très souvent. À quel âge, à partir de quel âge, il faut commencer à s'entraîner là, pour garder notre cerveau actif le plus longtemps possible?
En fait, à tout âge, je dirais qu'il faut garder son cerveau actif. C'est certain que ce type d'entraînement-là, vers la fin, cinquantaine, c'est souvent nos groupes qui sont ciblés. Mais si j'ai un conseil à donner, là, ce serait de... tout le temps là, de se garder très, très actif. Mais ce type d'entraînement-là, ça serait vers la début soixantaine.
Vous faites quoi, vous, Bianca Bière, pour vous garder active? On va demander à la chercheure.
Je fais plusieurs choses en même temps. Tous les jours, je garde mon cerveau très, très, très actif. On essaie de bien manger, de faire du sport aussi. Il y a plusieurs études aussi dans notre laboratoire, dans notre centre de recherche, plutôt, qui montrent que l'activité physique aussi, c'est très important au niveau de la cognition. C'est sûr qu'il y a un ensemble
d'habitudes de vie, encore une
fois,
et de nombreux facteurs également. Au même titre que cette étude-là semblait assez probante pour les enfants qui vivent avec d'autres types de réalités également. Là. Qu'est-ce que vous avez découvert à ce niveau-là?
Auprès des enfants?
Oui, ce que l'étude disait, c'est qu'il y avait des parents qui semblaient être rassurés parce qu'il y avait des études qui démontraient aussi que faire le multitâche pour des enfants, ça pouvait notamment les aider.
En fait, nous, c'était vraiment au niveau de la population vieillissante, le cadre de notre étude. C'est certain que ce qu'on a fait dans le cadre de notre étude pourrait s'appliquer avec des populations d'enfants. Je pense, par exemple, aux enfants qui ont des troubles déficitaires de l'attention. Par exemple, ce serait des genres d'entraînement qui seraient très, très, très pertinent pour eux, pour les aider à l'école, parce qu'on sait que il doit faire énormément de choses.
Mm-hmm. Ben oui, et c'est de ça qu'on va parler justement en deuxième partie d'émission. Pas tout à fait de ça, mais de comment on peut aider les enfants gauchers qui vivent avec parfois une réalité un petit peu plus difficile, un petit peu plus complexe dans leur réalité scolaire. Et ce qui était assez intéressant, ce que je voyais, c'est que c'est également, tout ça est dans le fonctionnement du cerveau. Et puis, on en parle avec Marielle Potvin. Vous êtes invitée et bienvenue à rester Bianca Bière. Je rappelle que vous êtes doctorante en neuropsychologie à l'Université de Montréal, également auteur principal de cette recherche qui portait sur le multitâche qui peut ralentir le vieillissement du cerveau des personnes plus âgées. Merci beaucoup de votre participation.
Merci à vous.
Pour rejoindre Marianne Paquette et l'équipe de C'est bon pour la santé, sans frais partout au Québec, 1-800-361-0635, poste 220. Par courriel, écrivez à mpaquette@vusezvoix.com. Pour plus d'informations sur l'émission, consultez canalm.org. Suivez-nous sur Facebook, / C'est bon pour la santé, et sur Twitter, @canal_m.
Bonjour Marielle Potvin.
Bonjour Marianne.
Vous allez bien?
Oui, très bien, merci. Et toi?
Oui, je vais bien. Êtes-vous gauchère, vous?
Non, je peux pas avoir toutes les qualités, moi.
C'est bien lancé, ça. On parle de ça aujourd'hui, comment développer les habiletés compensatoires des enfants qui sont gauchers et qui doivent fonctionner dans leur milieu scolaire. Il y a des trucs très, très concrets pour leur faciliter la vie. Mais d'abord, je veux vous demander, Marielle Potvin, vous qui êtes orthopédagogue, est-ce qu'il y a encore des préjugés envers les gauchers dans les classes?
Je vous dirais de moins en moins. C'est sûr que maintenant, c'est pas perçu comme ce l'était là dans les générations précédentes. Donc, on essaie plus de contrarier là, les enfants gauchers, vraiment pas. Je pense qu'on tente plutôt de les accommoder et de trouver des moyens pour qu'ils soient aussi confortables que les enfants droitiers, parce que l'univers de la classe est conçu pour les droitiers, comme le monde en général d'ailleurs. Donc,
oui.
Ils arrivent en classe et je pense que la première chose à faire, c'est de prévenir les enseignants que votre enfant est gaucher, disons, simplement pour ne pas qu'il se trouve coude à coude avec un droitier lors du travail d'équipe, par exemple. Puis là, disons que ça peut dégénérer un petit peu parce qu'ils se nuisent un et l'autre. Aussi, pour que l'enseignante sache que l'enfant a besoin, par exemple, de ciseaux pour gaucher. On parle, si je pense, par exemple, à la maternelle, ils ont toujours une série de ciseaux pour droitier et pour gaucher. Donc, il faut vraiment informer là, l'enseignante quand l'enfant est en bas âge. Et par la suite, il faut lui donner des trucs parce que ça touche à... beaucoup, beaucoup de dimensions. Ça touche bien sûr l'écriture, mais aussi l'habillage, par exemple, les fermetures éclairs, les boutons, tout est conçu pour les droitiers.
Les activités physiques.
Oui, le sport. Le sport, les jeux, les instruments de musique, si je pense à la guitare, par exemple, même les objets informatiques, la souris qui peut être transférée pour gaucher, mais encore faut-il le savoir. Donc, ce sont tous des petits aspects comme ça qu'il faut mettre en place, en tout cas pour accommoder les enfants gauchers. Pas seulement pour que ce soit plus facile, mais aussi pour la sécurité. Je pense en cuisine, par exemple, les couteaux, les ciseaux, les ouvre-boîtes, tout ça est conçu pour les droitiers. Et si l'enfant ne fait pas un apprentissage particulier pour apprendre à s'en servir, ben, il peut facilement là, faire plein de dégâts, renverser et bon, faire justement causer des petits accidents. Donc, c'est important de porter une attention particulière là, aux enfants qui sont gauchers.
Est-ce que les enfants gauchers auront plus de difficultés pour l'apprentissage de l'écriture?
En fait, ça dépend comment ils sont, moi je dirais comment on les part, là. C'est-à-dire que dès le départ maternel, première année, il faut tenir compte de l'angle de la feuille sur laquelle il écrit. Ça va demander un angle qui est différent. La posture aussi que l'élève va utiliser est très importante, dans le sens que s'il commence à écrire en ce qu'on appelle cassant le poignet, là, il va développer éventuellement là, des difficultés là, au niveau musculaire, des crampes, de la difficulté à écrire longtemps. Ça paraît pas en première année tout de suite. On dit « Ah, il a l'air à bien se débrouiller ». Mais quand les productions écrites allongent et que là, la charge de travail devient vraiment plus importante, au troisième cycle du primaire, par exemple, là, on les voit des fois qui secouent la main parce que leur posture n'est pas convenable, n'est pas confortable. Et à ce moment-là, pour compenser, pour ne pas casser le poignet, souvent, ils vont adopter une posture dorsale là, qui n'est pas adéquate. Donc là, on va se retrouver avec des maux dans la nuque et même éventuellement des maux de tête, des migraines. J'ai vu ça déjà.
Et là, l'écriture devient un petit peu moins amusante. Là.
Oui, voilà. Mais il y a toutes sortes de trucs qui peuvent contribuer là, à leur confort et puis à l'adoption là, d'une bonne posture en étant justement dès le départ éduqués là, dans ce sens-là. Mmh.
Toutes sortes de trucs et j'imagine que de plus en plus, on trouve les objets adaptés pour les enfants gauchers là, en boutique. Là.
Oui, c'est pas toujours facile, mais dans les grandes, comme par exemple chez Bureau en Gros, dans les grandes surfaces, on peut trouver quelques objets. Mais je dirais que la meilleure référence, c'est vraiment au niveau du Club des gauchers là, du Québec, qui, eux, font quelques importations et peuvent, à ce moment-là, répondre là, aux besoins des élèves là, ou des parents qui veulent procurer à leur enfant là, du matériel scolaire adapté.
Oui, d'ailleurs, on en parle, le regroupement des gauchers du Québec, et c'est grâce à vous que je le découvre, Marielle Potvin, qui ont une page vraiment très animée, très active sur Facebook, justement, très facile à trouver, regroupement des gauchers du Québec. Si je ne me trompe pas, le Club des gauchers du Québec. Et vous trouverez des suggestions de livres sur cette page Facebook-là, des articles, des trucs, des astuces très, très bien faits et alimentés là, assez souvent.
Oui, tout à fait. Comme là, c'est sûr, on va pouvoir poster là, le podcast de la rencontre d'aujourd'hui. Tout ce qui se passe un peu, tout ce qui bouge un peu dans le domaine là, des gauchers, les innovations qu'on peut rencontrer, les articles de journaux, évidemment aussi pour la Journée internationale des gauchers qui a lieu depuis 1975, ça a lieu le 13 août de chaque année. C'est la Journée internationale des gauchers qui leur permet de souligner leur différence et développer leur fierté aussi de cette différence-là.
Marielle, qu'est-ce que vous répondriez à un parent? Et j'ai en tête une amie à moi, son petit garçon est tout jeune. Là. Il a peut-être un an et demi. amie. Et elle m'a dit l'autre fois, ben je pense qu'il est gaucher parce que sa fourchette, sa cuillère, ses jouets, c'est toujours le premier réflexe de les prendre de la main gauche. Et, et bon, c'est OK, mais je suis un peu inquiète. J'aimerais ça essayer que ça change. Bon, pour apaiser un parent qui vous dirait ça, qu'est-ce que vous diriez?
Ben, je lui demanderais pourquoi voudrait-il que ça change, parce que on ne voudrait pas changer la couleur des yeux de notre enfant, alors on ne voudrait pas changer non plus sa latéralité, parce qu'un enfant qui est gaucher, il est neurologiquement programmé pour être gaucher. Donc, mais quand vous dites je lui tends la cuillère, il la prend de la main gauche. C'est justement les premiers indices. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Bon, quoi qu'on lui tende un jouet ou quoi que ce soit, il va se l'approprier de la main gauche. C'est vraiment un signe. Donc, bon, on faut faire avec à ce moment-là, tout simplement. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. On va simplement l'outiller comme un gaucher, sans changer, sans tenter de le contrarier d'aucune façon, mais en s'assurant que sa posture puisse être adéquate là, pour lui éviter de développer soit des scolioses ou soit des problèmes, là, des douleurs en écrivant.
Est-ce que l'on sait s'il y a un facteur d'hérédité dans le fait d'être gaucher ou pas?
Oui, il y en a un certain, il y a une certaine incidence il y a des familles de gauchers, il y a des familles où il y a beaucoup plus de gauchers. D'ailleurs, il y a beaucoup plus de garçons. En fait, il y a 3 garçons pour 2 filles qui sont gauchers. Mmh. Donc, c'est un petit peu plus, il y a une prépondérance là à ce niveau-là. On ne sait pas vraiment pourquoi, mais ça peut être dans l'ADN, là, ça peut être dans la génétique, bien sûr, bien sûr.
Marielle Potvin, je rappelle qu'on peut vous lire sur votre blog mariellepotvin.wordpress.com. Merci beaucoup d'avoir été là. C'est déjà la fin, mais pour en savoir davantage ou pour réentendre cet entretien, on pourra aller sur la page Facebook du Club des gauchers, sur Facebook.
Oui, tout à fait. Puis je pense que vous pouvez mettre des liens en référence aussi sur la page de votre radio, peut-être, je ne sais pas.
Oui, certainement, on le fera avec grand plaisir. Merci, Marielle Potvin.
Parfait, je vous en prie. Bye-bye, Marianne.
Eh bien, c'est déjà la fin de cette émission. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre canalm.org. C'est le nouvel endroit pour nous retrouver maintenant. Si vous avez envie de communiquer avec moi, mpaquette@vuesetvoix.com. Toujours un plaisir de vous lire et pour vous entendre, c'est le 1-800-361-0635, poste 220. On est en rediffusion à 17h. C'était Marianne Paquette qui était là. On se retrouve demain avec grand plaisir. Merci Jean-Sébastien de la Liberté. À demain. Bye bye. Portez-vous bien.